Bonjour, juste avant de commencer l'épisode, un petit message pour vous dire que j'organise en ce moment un gros crowdfunding pour fêter l'anniversaire de Passion Médiéviste. Ce sera le 11 avril 2026 et vous avez jusqu'au 17 décembre 2025 pour réserver votre place. Attention, après ce sera plus possible, il en reste encore, donc je vous mets les informations dans la barre de description et sur mon site. Allez, bonne écoute!
Passion moderniste. Le podcast qui éclaire
Versailles, la cour, le peuple, la reine, le clergé.
L'histoire moderne.
La terre est proche.
La thèse est osée.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Passion moderniste. Je m'appelle Fanny Cohen-Moreau et dans ce podcast Passion moderniste, avec un S à moderniste, je vous propose depuis 2019 d'écouter des jeunes chercheurs et chercheuses, en master ou en thèse, pour vous raconter leurs recherches sur l'époque moderne. Et pour rappel, l'époque moderne, c'est cette période qui s'est glissée entre le Moyen-Âge et l'époque contemporaine, c'est-à-dire en gros pour l'Europe occidentale, entre les années 1500 et 1800. Le but de ce podcast est vraiment de vous faire découvrir des choses sur l'histoire, même si vous n'y connaissez rien. Épisode 46, Axel et l'hiver 1709, c'est parti.
Il y a des gens que ça intéresse ce...
Personne.
Rappelez-vous, alors, si vous êtes des auditeurs auditrices très fidèles à ce podcast, rappelez-vous, dans l'épisode 34, nous avions parlé des révoltes rurales, notamment avec les femmes, au XVIIIe siècle avec Claire Gauthier. Et au début de cet épisode, nous avions parlé de ce fameux hiver 1709, qui était en fait peut-être le début de tout ce siècle de révolte et de crise. Eh bien aujourd'hui, alors en plus, l'épisode sort au moment de l'hiver. Je vous assure, c'est pas fait exprès à la base, mais finalement, ça tombe bien. Et je suis contente parce que parfois, on parle dans ce podcast de longues périodes, de siècles entiers. Eh bien aujourd'hui, on va parler d'une année, voire même d'une saison précise. Et pour cela, j'ai le plaisir de recevoir Axel Gerin. Bonjour Axel.
Bonjour Fanny.
Alors Axel, donc tu as fait un mémoire de recherche de M1 donc sur la mémoire de l'hiver 1709 en France. Tu étais sous la direction de Gauthier Aubert dans le cadre du master, attention, il est long ce titre de master, Histoire, Civilisation, Patrimoine, Pré-Parcours, Médiation du Patrimoine, de l'Histoire et des Territoires à Rennes 2, donc à l'Université de Rennes. Et tu l'as soutenu en juin 2025, donc c'est bien, c'est très frais en fait pour toi au moment où on l'enregistre et même au moment où il sera diffusé. Donc, on va explorer effectivement cet fameux hiver, quand on pense hiver froid, même encore aujourd'hui, parfois on y fait référence, donc on va voir pourquoi en fait cet hiver a une telle mémoire et qu'est-ce qui s'est passé pendant cet hiver. Mais d'abord, déjà, première question rituelle dans Passion Moderniste, pourquoi est-ce que tu as voulu étudier ce sujet?
Alors, en origine, c'est pas vraiment moi qui voulais étudier ce sujet, c'était mon directeur. Et donc en M1, quand j'ai commencé à chercher des sujets, j'avais quelques petites idées. Et j'ai regardé par curiosité un petit peu ce que proposaient certains directeurs, dont Gauthier Aubert. Et là, j'ai vu la mémoire de l'hiver 1709.
C'est-à-dire, ils proposent, c'est qu'ils ont un petit catalogue de sujets qu'ils proposent aux gens.
Exactement.
C'est vrai.
En fait, eux, ils font leur recherche, ils se disent, tiens, il y a ça pourrait intéresser des étudiants. Et moi, ça m'a tout de suite fait penser à quelque chose que j'avais étudié en L1, en histoire moderne, sur les conditions de vie au XVIIe siècle. C'est l'hiver 1608 qui aurait inspiré le conte du Petit Poucet. Dans le sens où ce fameux ogre qui essaie de manger le Petit Poucet et ses frères et puis ensuite qui mange ses enfants, en fait révèle à demi-mot les cas d'anthropophagie, donc c'est quand les gens se mangent entre eux, qui a lieu à cette période-là. Et donc comme c'était tabou, on ne voulait pas le dire ouvertement, donc on a fait passer ça à travers un conte. Et moi je me suis dit, tiens, hiver 1709, ça se trouve, il s'est passé un peu la même chose.
Donc un siècle plus tard. Hein.
Un siècle plus tard. Peut-être qu'il y a aussi eu dans des contes qu'on connaît des choses en lien avec cet hiver-là. Et donc c'est parti de ça, même si finalement dans mes sources, il n'y a pas beaucoup de contes. Mais voilà, c'est à l'origine de ça.
Et cet hiver, est-ce qu'il a déjà été étudié avant toi?
Oui, alors l'hiver en tant que tel, il a été beaucoup étudié par Marcel Lachivet, aujourd'hui c'est vraiment la référence, notamment dans son livre Les années de misère, la famine au temps du grand roi.
Ah, la grosse ambiance quoi.
Oui, c'est ça, exactement. Mais dans le passé, il avait déjà étudié par Arthur de Boislille, qui a sorti en 1903 Le Grand Hiver.
Ah ouais, ça date quand même.
Ça date
là.
Un petit peu.
Mais depuis, il n'a pas été beaucoup étudié, c'est ça?
Alors, en tant que tel, non. Après, il a été utilisé par différents billets, par exemple par l'histoire climatique, l'histoire sociale, pour parler l'histoire politique. À ce moment-là, on a pas mal de guerres. Mais vraiment, en tant que sujet, c'est vraiment les deux références. Et sa mémoire, eh ben, elle n'avait jamais été étudiée. Donc c'est pour ça que voilà, je suis arrivée là.
Et donc toi, justement, qu'est-ce que tu voulais montrer dans tes recherches?
Eh bien, au départ, je voulais surtout un peu observer, depuis 1709, les façons dont on parlait. Donc, quel discours on a sur cet hiver? Est-ce qu'il y a des périodes où on en parle plus? Par quel angle est-ce qu'on l'aborde? Et donc, finalement, le résultat de ces recherches, c'est que cet hiver 1709, c'est bien une référence depuis 1709. Alors, peut-être que les auditeurs qui nous écoutent se disent « je n'en ai jamais entendu parler, c'est trop bizarre ». Mais si, c'est bien une référence, on en parlera plus tard. Et pourtant... ce n'est pas du tout l'hiver le plus froid. En fait, dès 1740, il y a eu un hiver plus froid. Donc en fait, c'est un hiver qui a plus de 300 ans de postérité, alors qu'en 30 ans, il aurait pu être complètement oublié. Et donc ça, c'est ça que je trouvais un peu fou, et c'est là-dessus surtout que j'ai travaillé.
Bon, on va effectivement revenir à ça en détail. On va replacer un peu le contexte de tout, parce qu'effectivement, oui, auditeur, auditrice, moi je suis comme vous peut-être, l'hiver 1709, ça me disait rien. Vraiment, j'en avais jamais entendu parler. Alors déjà, place-nous un petit peu le contexte historique. Là, 1709, on est à quel moment? Qu'est-ce qui se passe un peu les grands mouvements de l'époque?
Alors en 1709, on est toujours sous Louis XIV, qui commence à se faire un petit peu vieux. Hein, il a 71 ans, il vit à Versailles avec Madame de Maintenon, sa cour. Et il aime toujours faire la guerre, hein, notre ami Louis XIV. Depuis 1701, on est dans ce qu'on appelle la guerre de succession d'Espagne. Pour vous refaire les grandes lignes.
C'est une guerre de succession d'Espagne, c'est ça?
Voilà, en gros, c'est ça le projet, ça dure en longueur, ça pompe complètement les finances du pays, ça prend aussi des ressources hein, pour pouvoir nourrir les soldats. Et puis le problème, c'est que là, cette fois, les Français, ils sont en mauvaise posture. Ils perdent plusieurs batailles, et notamment en 1708, ils viennent de perdre Lille, avec le siège de Lille.
Lille, la ville Lille?
La ville de Lille, wow. Et oui, c'est terrible.
Donc là, le rapport avec l'Espagne, non mais putain, on va pas rentrer dans le détail.
Non.
Bref, ils ont perdu Lille.
Ils ont perdu Lille, et donc là, gros coup au moral pour les Français, qui commencent vraiment à se dire, mais en fait, Dieu nous a abandonnés, c'est la cata. Et la cerise sur le gâteau, début 1709, un énorme hiver qui les frappe. Et donc là, ils se disent, c'est vraiment la catastrophe. Et donc ça, c'était pour, on va dire, plutôt le contexte politique, voilà, dont on aime bien souvent parler. Mais moi, dans mon sujet, il y a aussi le contexte climatique qui compte beaucoup. Et je vais notamment vous parler donc, du petit âge glaciaire.
Ah.
Je ne sais pas si tu as déjà entendu parler de
oui,
cet âge-là.
Oui, mais il y en a plusieurs, même. Enfin, même je sais qu'on en parle pour le Moyen-Âge aussi, parfois, du petit âge glaciaire, mais c'est différent.
Alors, oui, en fait, il y a plein de choses. Mais moi, du coup, ce petit âge glaciaire que j'étudie, il va du 14e siècle au 19e siècle.
Ah oui, c'est un gros âge glaciaire.
C'est un
oui.
gros âge glaciaire, voilà. Et donc, il y a notamment des hivers très froids de 1315 à 1740. Et donc, c'est dans de ce contexte qui favorise des hivers froids que se déroule l'hiver 1709.
Et donc, tu travailles sur la France en général, c'est ça?
C'est ça. La France qui a à peu près voilà, les mêmes frontières qu'aujourd'hui. Bon, alors, à quelques exceptions près, parce que voilà, on se bataille gentiment avec ses voisins.
Notamment en Père Lille, voilà.
Voilà, c'est ça. Donc, j'aurais pu étudier aussi l'Europe. Parce qu'on en parlera peut-être un peu plus tard, mais cet hiver, il n'est pas seulement en France. Mais pour un mémoire de 1 an, ça faisait beaucoup de travail.
C'est déjà
donc la France, c'était bien, déjà.
Alors, donc on va commencer, comme je l'ai dit, par raconter l'hiver 1709, puis parler de sa mémoire. Alors, Axel, raconte-nous, qu'est-ce qui s'est passé pendant cet hiver pour qu'il soit aussi dur? Et à quel moment est-ce qu'il commence? Parce que quand on pense hiver, on pense dès le mois de novembre. Mais de ce que j'ai compris, en fait, non. Là, on est plutôt au début de l'année, mais l'année calendaire, quoi.
Alors les Français de l'époque, ils pensent un peu comme toi.
Ah.
Dès l'automne, il y a 3 vagues de froid, mais qui sont assez petites. Et ensuite, fin décembre, début janvier, en fait, il fait très très doux. Donc les Français, ils sont pas contents, ils se disent qu'ils ont un hiver de cocu. C'est-à-dire que...
Super.
Que eux, ils aiment bien que voilà, l'hiver corresponde aux caractéristiques qu'on lui donne. Et donc, au XVIIIe siècle, l'hiver, c'est quand il fait froid et qu'il y a de la neige. Donc ils sont pas contents, mais ils vont être rassurés, enfin rassurés.
Bah, à part maudire le ciel, il y a rien à faire de toute façon.
C'est ça. Parce que lors de la nuit des rois, donc le jour des rois, c'est l'épiphanie, donc le 6 janvier.
C'est ma fête un peu à moi, c'est et l'épiphanie. Bon, bref, pardon. On me l'a fait chaque année, donc pour une fois. Donc l'épiphanie, oui.
Et donc dans cette nuit des rois, donc du 5 au 6 janvier 1709, il y a une vague de froid qui fait que les températures chutent drastiquement. Donc par exemple, à Paris, on passe de 6 degrés à moins 3 degrés.
Ah oui, quand même, oui, c'est bien froid, quoi.
Et à partir du 8 janvier, on passe la barre des moins 10. Et pendant 13 jours, on reste sous ces barres des moins 10. Et pendant une vingtaine de jours, on reste dans des températures négatives.
Donc vraiment là, grosse vague de froid. C'est pas juste on a mis une petite laine. Non, on a vraiment une grosse vague de froid. Et est-ce qu'on est sur un phénomène d'ampleur nationale? Parce que là, t'as parlé de Paris, mais est-ce qu'on retrouve ça partout?
Oui, donc dans toute la France, on a ce phénomène. Après, il y a des régions qui sont un petit peu moins touchées, comme par exemple la Bretagne, qui subit un petit peu moins. Voilà, ça peut étonner, on se dit c'est au nord, mais non. La vague de froid, elle arrive un peu après, et globalement, ils vont avoir des températures un petit peu moins froides. Et ce qui est intéressant, justement, dans la mémoire que j'étudie, c'est que le ressenti et les températures relevées ne correspondent pas forcément. Par exemple, Emmanuel Rolladurie, donc a étudié les températures, dit que dans le sud de la France...
C'est un historien. Oui, voilà, c'est juste pour dire que c'est pas un mec de l'époque, quoi.
Non. Il dit que dans le sud de la France, il a fait moins froid. Et pourtant, dans les journaux, souvent, une des régions qui est citée comme un endroit où il a fait très froid, eh bien, c'est le sud de la France. Donc, c'est assez amusant de constater qu'entre ce que les gens ont vécu et transmis comme mémoire et les données scientifiques, eh bien, en fait, ça ne correspond pas forcément.
Alors, j'ai une question qui peut paraître un petit peu bête, mais c'est vraiment parce que je ne connais pas bien la période du tout. Mais comment est-ce qu'on mesurait les températures à l'époque? On avait déjà des outils, c'était développé à quel point, en fait?
Alors, le thermomètre a été inventé en 1567.
Ah ouais, donc c'est vachement tôt. C'est vrai que j'avais pas du tout ça en tête. Donc c'est vraiment, ça fait un moment qu'on l'a, le thermomètre.
Ça fait un moment, mais c'est pas le thermomètre qu'on a aujourd'hui. Il y a deux principaux soucis. Le premier, c'est des questions de méthodologie. Par exemple, les relevés ne vont pas être faits régulièrement ou ils ne vont pas être faits avec une assez bonne méthodologie. Par exemple, un des relevés qu'on a pour l'hiver 1709, c'est celui de La Hire, qui prend ses mesures depuis l'Observatoire de Paris. Sauf qu'il a mis son thermomètre à l'intérieur de la tour. Donc en fait, ça fausse un petit peu les données. Donc déjà, on est obligé de faire des ajustements. Et puis la deuxième chose, c'est que ce ne sont pas les mêmes thermomètres qu'on a aujourd'hui, avec le même étalonnage. Et on n'a pas fait la correspondance à cette époque-là. Donc aujourd'hui, on essaie de bidouiller des choses pour avoir la correspondance entre leur température et nos températures. Mais voilà, ça donne des données qui ne sont pas encore très très précises. Et c'est à partir du 19e siècle où vraiment on a des données régulières et qualitatives.
Donc c'est intéressant. Déjà à l'époque, on peut quand même mesurer, c'est pas juste un ressenti, c'est pas « oh, on a froid ». On peut déjà à l'époque mesurer les températures, donc ça déjà c'est intéressant.
Oui. Mais on peut aussi en fait utiliser les descriptions humaines, ce qu'il y a pendant longtemps, dans le sens où avec les phénomènes qui sont racontés, par exemple là dans notre hiver 1709, il y a le gel des rivières, il y a les arbres qui éclatent, les vignes qui gèlent. En fait, à partir de tous ces phénomènes naturels, on peut aussi établir des données en disant « bon bah, il devait faire cette température pour qu'il y ait ce phénomène-là ».
Et donc tu l'as dit, ce phénomène il touche un peu toute l'Europe aussi ?
Tout à fait. Alors pour vous faire un petit schéma, vous pouvez partir de la Scandinavie, après vous allez à l'Angleterre, ensuite le bassin méditerranéen, l'Italie, puis après jusqu'à la Russie à l'Est. Ça vous donne à peu près la surface où s'est étendu cet hiver, qui n'a pas été ressenti de la même façon. Mais pour pouvoir montrer que cet hiver a été terrible, les exemples européens sont souvent utilisés dans les sources françaises. Par exemple, on va parler des rivières, en disant que la Tamise, l'Èble, par exemple, ont complètement gelé pour pouvoir dire « Regardez comme il était froid notre hiver, c'était horrible ».
Donc tu l'as dit, on a cette période de grand froid pendant donc environ un mois, si j'ai bien compris. Qu'est-ce qu'on a d'autre peut-être comme témoignage en fait, de l'époque, de comment est-ce qu'on ressent cet hiver ?
Eh bien, un des principaux témoignages qu'on a, ce sont les registres paroissiaux. Donc globalement, c'est un peu l'ancêtre de l'état civil. En gros, on recense les baptêmes, les mariages et les sépultures. Mais les prêtres vont aussi ajouter des petites annotations de ce qu'ils vivent. Et donc, en 1709, on a plein d'informations sur ce qui s'est passé dans chaque petite localité française. Et donc c'est comme ça qu'on sait que le vin gèle complètement à la messe, qu'ils ne peuvent plus sortir de chez eux parce qu'il y a trop de neige, ou qu'ils entendent des grands bruits parce que les arbres craquent, ou qu'ils voient des oiseaux qui tombent en plein ciel, ou alors que les loups arrivent parce qu'ils ont faim aussi. Voilà, c'est comme ça qu'on a toutes ces petites informations. Et on a aussi des témoignages de notables. Par exemple, on a un témoignage qui est assez connu du marquis de Savignac, un bordelais. Lui qui notamment a fait des relevés. Il n'y a pas que les scientifiques qui avaient des thermomètres, aussi des particuliers. Donc lui, on a des données aussi.
Donc il avait un petit peu de sous quand même pour avoir un thermomètre.
Oui, c'est un bon notable. On a aussi, par exemple, le livre de raison de Haguenau. Un livre de raison, c'est comme un livre de contes, où il nous raconte, pareil, ce qui se passe dans la ville. On a Gautron, un scientifique qui étudie les maladies, ou encore le vigneron Vincelet. Donc voilà, on a plein de personnes différentes qui en parlent. Et puis, par la suite, alors c'est pas pendant l'hiver, mais on a aussi des mémoires, donc des personnes qui ont vécu cet hiver, mais qui écrivent des années plus tard. Et là, l'exemple numéro 1 qui revient à chaque fois qu'on parle de l'hiver 1709, c'est le fameux Saint-Simon.
Ah oui.
Le mémorialiste qui aime bien critiquer la cour et Louis XIV. Lui aussi, il en parle. Mais on a aussi des personnes moins connues, comme par exemple Valentin Jameret Duval.
Ah oui, jamais entendu parler. Hein.
Ah oui, c'est normal. Alors lui, il était gardien de dindons au début.
Pardon ?
Ça existe.
Gardien de dindon, oui.
Gardien de dindon. Et sauf qu'il se fait renvoyer parce qu'il fait mauvaise farce. Et donc, il se retrouve sur les routes à chercher du travail pendant l'hiver 1709. Et donc, voilà, il survit miraculeusement, il y a toute une histoire. Et lui aussi va faire ses mémoires. Bon, voilà, il y en a d'autres, c'est pour vous donner quelques exemples de ce qui peut exister.
Donc là, c'est intéressant parce qu'on voit que cet hiver a touché toutes les couches de la population. On n'est pas vraiment le cliché de l'hiver qui touche les campagnes, mais dans les villes, on est bien au chaud et tout va bien. En fait, non, ça touche tout le monde.
Oui, alors ça touche tout le monde, mais pas de la même façon, voilà. Même pour pouvoir prouver que c'est un hiver terrible, souvent l'exemple de Versailles est pris en disant, même à la table du roi le vin gèle, en disant même, voilà, les gardiens, les gardes de Versailles sont frigorifiés, il y a des membres de la cour qui meurent à cause de cet hiver-là. Et puis bien sûr, dans la campagne, dans les villes, tout est bloqué, tout le travail s'arrête, donc on a vraiment le pays est gelé, enfin, littéralement, on ne peut plus rien faire.
Et qui dit pays bloqué, dit famine. J'ai l'impression que forcément, pour acheminer la nourriture, notamment à Versailles, ils ont un peu galéré, c'est ça ?
Il y a des problèmes de ravitaillement, mais ce n'est pas le cœur du problème. En fait, là, pour le moment, je vous ai seulement parlé de la vague de froid qu'il y a eu en janvier, mais il y en a une deuxième en février, sinon c'est pas drôle. Ce qui se passe, c'est que toute la neige, toute la glace de janvier se met à fondre, et là, il y a une nouvelle vague de froid qui fait que toute l'eau qui avait détrempé les terres, les cultures, se met à geler et gèle en profondeur les terres, et gèle les récoltes. Donc il n'y a pas de récolte, et là c'est un peu la panique, parce que on n'a plus rien à manger, les prix montent à une vitesse folle, faut bien imaginer que énormément d'animaux sont morts aussi pendant l'hiver, les poules, donc vous avez plus d'œufs, le gibier, le bétail dans les étables, donc à ce moment-là on se retrouve sans nourriture ou à un prix excessif, et donc c'est ça qui cause une famine.
Mais alors comment font les gens? Parce qu'il faut bien manger, enfin, est-ce qu'on a vraiment des gens qui meurent de faim?
Oui.
vraiment la bonne ambiance.
Oui, c'est sympathique à étudier. Mais donc, pour éviter de mourir de faim, on remplace la nourriture avec ce qu'on appelle la nourriture de substitution. Donc, dans le meilleur des cas, par exemple, à la cour, on va seulement avoir des pains un peu moins nobles. Donc, par exemple, on va faire du pain d'avoine ou du pain d'orge. On a notamment l'exemple de Madame de Maintenon qui est obligée de manger du pain d'avoine, la pauvre.
Voilà. Alors que normalement, c'est du pain blanc et tout ça, pain de
c'est
blé.
C'est ça,
quoi.
Avec du seigle, voilà, des choses un peu plus prestigieuses. Mais dans les endroits où vraiment on meurt de faim, on fait des farines en fait avec ce qu'on trouve. Donc on a par exemple des pains de fougère, des pains de gland, des pains d'écorce de pin pour pouvoir survivre. Et le problème, c'est que ces pains déjà nourrissent très peu et ils apportent des maladies, tout comme quand on mange des charognes. C'est pas une bonne idée. Voilà, même quand on a faim, ça apporte des maladies. C'est ce qui va créer des épidémies par la suite.
Et est-ce que, comme pour l'hiver d'un siècle avant, est-ce que tu sais si on a des cas d'anthropophagie ou pas, ou des rumeurs?
Alors ce qui... Je n'ai trouvé aucune source qui en parle en 1709, mais dans la mémoire, donc dans des choses faites beaucoup plus tard, on évoque ces cas-là. Alors, est-ce que c'est juste un fantasme où on s'est dit « Oh, il a dû sûrement avoir quelques cas », ou bien est-ce qu'il y a des choses qui les prouvent, mais juste moi, je ne les ai pas trouvées. Voilà. je ne sais pas.
Panamanisme ! Qu'est-ce que c'est que ce pays ? C'est pas possible. Il faut au moins 8000.
Alors cet hiver, on l'avait vu dans l'épisode 34, a eu des conséquences finalement et ça a amorcé tout le siècle ensuite. Mais là, est-ce qu'on peut quand même dater la fin de cet hiver? Quand est-ce que ça a commencé à aller un petit peu mieux? Quand est-ce que les récoltes ont recommencé à être bonnes?
Alors il y a plusieurs choses. L'hiver en tant que tel, en tant que température, il s'arrête en gros début mars.
Donc c'est-à-dire qu'on a eu quand même quasiment deux gros mois de bien froid.
C'est ça, avec plusieurs vagues de froid successives. Ensuite, on arrive en avril, la famine, et là c'est... En fait, pour les Français de l'époque, le froid et la famine vont vraiment ensemble. C'est une crise qui va ensemble dans les sources, ils ne les dissocient pas. Et ce qui les sauve, c'est le miracle de l'orge.
Le quoi ?
Alors, je vous ai dit tout à l'heure que les récoltes ont été perdues. Et donc même si le roi interdit qu'on sème à nouveau des graines, parce qu'il pense qu'il y a quelques cultures qui vont être sauvées miraculeusement, eh bien il y a des paysans qui outrepassent cette interdiction et qui commencent à semer tout ce qu'ils trouvent. Et notamment beaucoup d'orge. Et donc il va y avoir une grande récolte d'orge qui vraiment dans les sources apparaît comme un miracle. Enfin, ils disent c'est bon, on a été punis, et Dieu se dit c'est bon, c'est fini, voilà, vous pouvez manger. Et donc ils vont survivre grâce à ça, mais ça va pas empêcher des révoltes. Donc là on a toute une période de révolte, et moi je m'arrête avec une dernière grande révolte qui a lieu en août, à Paris. Moi j'arrête mon travail là, mais en fait la crise se poursuit parce qu'il y a des épidémies à partir de septembre, et il faut attendre la fin de l'année 1710 pour que les choses s'apaisent et qu'on retrouve une situation un peu moins difficile.
Mais ce qu'on va voir, et donc maintenant, bah, je te propose effectivement qu'on parle de le cœur de tes recherches, la mémoire de cet événement, parce qu'on l'a dit, effectivement, il a marqué. Tu l'as dit, on a des gens qui écrivent et tout ça, mais est-ce qu'on se rend compte déjà à l'époque du caractère exceptionnel, au-delà peut-être des comparaisons scientifiques ?
Oui, alors déjà, dans tous les textes que j'ai trouvés de cette époque-là, on dit que cet hiver est exceptionnel. On a vraiment ce sentiment qu'on vit quelque chose d'important. Et il y a notamment une petite phrase qui revient souvent, qui est « Jamais donné mort d'homme, on avait subi pareil froid ». Alors, elle montre bien, voilà, cette conscience qu'on a, mais il faut y prendre garde si on veut faire des hiérarchies d'hiver, parce que c'est Emmanuel Garnier, donc un historien, qui explique ça. À chaque hiver, les hommes ont l'impression qu'ils vivent quelque chose de plus froid. Donc, elle est bien...
Comme aujourd'hui, hein, c'est vraiment comme aujourd'hui.
Exactement. Donc, c'est bien pour dire, voilà, ils ont conscience de vivre quelque chose d'incroyable, mais si on veut faire des hiérarchies d'hiver, ce n'est pas quelque chose d'utile.
Et à partir de quand l'hiver de 1709 est devenu une telle référence? Parce que tu l'as dit, 1740, juste après, on a un hiver qui est encore pire. Pourquoi et comment il est devenu une telle référence?
Alors, pour dater un petit peu, c'est devenu une référence dès 1709, en fait. Par exemple, le vigneron Vincelet, il dit « il s'en souviendra » en parlant de son fils qui vient juste de naître. Donc voilà, c'est pour montrer à quel point ça les marque. Et dès l'hiver 1740, justement, j'ai trouvé un journal qui compare déjà leur hiver à celui de 1709. Et à partir de là, en fait, ça n'arrête plus. Dès qu'il fait froid, les journaux comparent leur hiver à l'hiver 1709. Et ils vont notamment lui donner le petit nom de « Grand Hiver ». Ce nom, il le pique à l'hiver de 1608, qui avant s'appelait le grand hiver, parce que c'est ce qu'explique Emmanuel Garnier, c'est ce que je disais souvent, on a l'impression qu'il a toujours fait plus froid, donc le titre passe d'hiver en hiver, puis on avance dans le temps. Sauf que notre hiver 1709, lui, il garde ce titre, même s'il y a eu des hivers plus froids par la suite. Et donc pourquoi est-ce que lui, il est si important? Donc c'est le fruit de mes recherches. Eh bien tout d'abord, c'est pour son aspect. Donc, c'est ce que j'ai expliqué, on a d'abord un hiver très doux, puis très violent. Pour tous les phénomènes naturels qu'il y a, donc j'en ai un petit peu parlé, que ce soit le gel des rivières, les arbres, la nature qui est complètement pétrifiée, mais aussi pour la mort des cultures, qui est vraiment à traumatiser, on peut dire, quand même la population avec cette famine. Mais aussi pour le contexte, c'est ce que je disais tout à l'heure avec la guerre de succession d'Espagne, c'est vraiment le côté cerise sur le gâteau qui fait que ça va aussi donner une place à cet hiver dans l'historiographie. On parle souvent au début d'histoire-bataille, c'est-à-dire qu'on construit l'histoire que sur les événements politiques et militaires, et donc c'est comme ça que cet hiver il va avoir un petit peu de visibilité, dans le sens où on va dire que c'est ce qui a décidé Louis XIV à faire des négociations avec la coalition européenne qui était contre lui.
Ah oui, parce qu'il n'avait plus le choix, en fait, aussi, à ce moment-là.
Bah c'est ça, il s'est dit, il faut faire quelque chose. Donc c'est ce qui lui a donné un peu de visibilité, donc ce qui fait qu'on en parle. Et puis, la dernière chose, c'est que cet hiver, il donne beaucoup de possibilités d'études. Par les relevés, on en parlait tout à l'heure, même s'ils ne sont pas très fiables, on peut quand même étudier cet hiver avec des données scientifiques. Par la richesse des sources, j'en parlais aussi avec tous les registres, tous les témoignages qu'on a. Et puis, dernière raison, ce serait aussi parce que c'est le dernier hiver le plus meurtrier. Et donc c'est aussi voilà, une des raisons pour lesquelles il a marqué les gens. On compte qu'il y a environ 600 000 personnes qui sont mortes de l'hiver et de la famine.
600 000 ?
Et oui. Donc sur une population d'un peu plus de 22 millions d'habitants. Et c'est pas tout, parce qu'ensuite il va y avoir les épidémies, et donc en fait, en 1711, on n'en a plus que 21 millions. Donc on a perdu quand même à peu près 1 million d'habitants entre ces deux années.
Ouais, en quelques années seulement. Donc ça, quand on dit oui, la population française a toujours augmenté, bah là non, on a un vrai recul à ce moment-là. Mais c'est fou le nombre de morts, effectivement, c'est énorme. Alors oui, si on compare à la peste, non, mais c'est quand même beaucoup, quoi. Et je me disais, à l'époque, est-ce que, vu le contexte et tout ça, est-ce que les gens disent « oui, c'est Dieu qui nous envoie cette épreuve ?»
Mais tout à fait. Ils se disent vraiment que c'est une punition de Dieu qui punit ce roi orgueilleux qui veut pas cesser cette guerre. Et ce que je disais aussi tout à l'heure, c'est qu'avec le miracle de l'orge, ils voient vraiment ça comme un acte divin. Pour eux, c'est vraiment soit la manne d'Égypte ou bien la multiplication des pains. Ils en parlent dans les sources, ils font ces références bibliques. Mais ce que j'ai pu observer dans la mémoire de cet hiver, c'est que ce côté religieux, il disparaît en fait quasiment complètement. Donc c'est aussi révélateur pour nous aujourd'hui d'une place du divin qui a moins d'importance. Mais il faut quand même noter voilà, qu'en 1709, ça avait toute sa place.
Est-ce que tu vois d'autres évolutions dans la façon dont tu es vu cet hiver-là ?
Oui, alors notamment dans les exemples qui sont donnés, ce qui est intéressant, c'est que dans toutes les sources que j'ai de 1709, j'ai plein d'exemples différents, sur par exemple les activités qui cessent dans la ville, sur la nourriture qui est mangée, mais ce qui revient quasiment tout le temps dans les sources, en fait, ce sont les mêmes exemples qui sont concentrés autour de Louis XIV, donc par exemple le vin gèle à sa table, de la cour de Madame Maintenon qui mange du pain d'avoine, et de Saint-Simon. Et donc même quand les histoires ne parlent pas du roi ou de son entourage, et qui parlent du peuple, peuple, eh bien, ce sont des choses qui sont écrites par la main de ces personnes-là. Par exemple, la grande émeute du 20 août à Paris, eh bien, très bien, voilà, c'est une grande émeute, mais en fait, il y a eu beaucoup plus d'émeutes en avril et en mai. Et c'est juste que comme ça se passe à Paris et qu'il y avait des personnalités, eh bien, on a beaucoup plus de sources à ce sujet-là.
Donc on voit que le fait que toute l'actu est concentrée sur Paris, c'est pas nouveau en fait. Ce qui est intéressant aussi, c'est que justement aujourd'hui, l'histoire climatique est très à la mode, et tant mieux, donc on réétudie un petit peu des moments d'histoire sous l'angle vraiment du climat. Toi, comment est-ce que ça a influencé tes recherches ?
Eh bien déjà parce qu'on étudie l'hiver 1709 sous un tout nouvel angle, grâce, ben, j'en parlais un petit peu au début, avec le petit âge glaciaire, on essaye aussi de trouver des explications scientifiques à ce qui s'est passé durant cet hiver-là.
On en a ou pas de cette vague de froid où on n'arrive pas trop à l'expliquer vraiment ?
Alors on en a, même si dans la mémoire de l'hiver 1709 c'est pas ce qui prime. Alors il y a deux choses qui auraient favorisé cet hiver, c'est les éruptions volcaniques qui ont lieu quelques années avant du Fujiyama. Donc c'est au Japon.
Le mont Fuji au Japon ?
C'est ça.
Mais
voilà.
C'est à l'autre bout du monde, en fait.
C'est ça. On a un immense voile de poussière qui vient jusqu'ici et qui aurait favorisé des conditions d'hiver froid. Il y a également le minimum de Maunder.
Le quoi ?
Alors là, ça devient complexe. Je vais faire un résumé. Résumé. En gros, il y a des périodes où il y a des taches solaires moins fortes qui favorisent ce qui est aussi des choses plus froides. Et la cause, on va dire, de l'hiver en lui-même, ça serait un anticyclone sibérien qui serait venu en Europe.
On serait sur une conjonction de plusieurs origines qui aurait causé cet hiver très froid.
Exactement. Mais ce que je trouve intéressant par rapport au climat, c'est que donc cet hiver, il a longuement fait partie de l'enseignement scolaire. C'était jusque dans les années 70 au programme scolaire. Ensuite, ça a été mis de côté. Et c'est revenu ces dernières années dans le programme de AGGSP en terminale pour pouvoir parler en fait de l'adaptation des hommes à leur climat et de voir comment le climat peut impacter la société.
Est-ce que c'est l'ancien ECJS ou pas, cette matière ? Non, mais là, vraiment, là, on a un trop de gros décalage. Alors, quoi ? C'est l'EG quoi ?
Alors, HGGSP, donc ça fait partie des nouvelles spécialités qu'on peut choisir dès la première et qui, en gros, c'est histoire géo et géopolitique.
D'accord. Oh, c'est vraiment, je suis une vieille, hein, moi, ce genre de choses. Moi, déjà, moi, pour moi, il n'y a plus de bac L, je suis perdue. Donc, ça veut dire qu'on peut retrouver ça dans le programme, c'est super intéressant.
Oui, et donc le travail qu'ils font, c'est vraiment de partir de sources, de chercher comment est-ce que ça a pu les impacter dans leur quotidien. Et donc, ça reste globalement dans une des tendances actuelles qui fait qu'on reparle de cet hiver. On en reparle à cause du dérèglement climatique. Il y a des forums, il y a des émissions qui essaient de voir comment est-ce que ces hommes se sont adaptés. Et il y a aussi des artistes qui reprennent cet hiver pour parler de notre situation actuelle. Je pense par exemple à Laurent Mongepapier qui a fait une œuvre qui s'appelle Grand Hiver. On voit un homme complètement frigorifié. Et donc lui, il veut nous alerter en disant peut-être qu'en 1709, il pourrait y avoir aussi aujourd'hui des révoltes, des famines dues à la situation climatique qu'on vit aujourd'hui.
Oui, sauf qu'aujourd'hui, en fait, c'est pas seulement le Fujiyama qui a fait ça, c'est qu'on a aussi l'action humaine, clairement. Là, exactement. C'est la différence quand même avec l'hiver 1709, c'est qu'on n'est pas juste... Là, on est malheureusement un peu plus acteur de ce dérèglement.
Tout à fait. Et au-delà de ça, on a par exemple Aline Biette qui fait le rapprochement entre le très froid 1709 et notre très chaud à venir, pour commencer à parler donc, du climat, mais aussi faire des liens sur nos sociétés, en parlant par exemple des répressions, de la police, des révoltes, ce qui se passe dans les hôpitaux, les conditions. Et donc voilà, il y a plein de parallèles qui sont faits aujourd'hui et qui fait qu'on en reparle de plus en plus de cet hiver.
Ouais, donc c'est un sujet hyper d'actu en fait.
C'est rare, hein,
non, pas sur moderniste. Et justement, pourquoi tes recherches ? Parce que tu as fait ces recherches seulement en un an, donc forcément, tu n'as pas pu tout voir, mais est-ce que tu as pu aller dans les archives et voir en fait des vrais archives qui parlaient de cette époque-là ?
Alors les archives, c'était compliqué. J'aurais pu, par exemple, pour les registres paroissiaux, mais j'aurais perdu beaucoup de temps à aller dans toutes les communes de France, faire tous les registres de France.
Oui, c'est pas possible, quoi.
Voilà, donc je suis allée sur Généanet, qui numérise plein de registres, c'est incroyable.
Ah ouais, donc, je connais pas, tiens.
C'est une vraie mine d'or, si des personnes travaillent là-dessus.
On mettra le lien sur le site, si vous voulez voir plus.
Et puis ensuite, il y avait tout ce qui était journaux, mais pareil, c'était quand même beaucoup plus rapide d'aller sur Retro News, où on a accès à tout un tas de journaux.
C'est le site de Gallica, c'est ça ?
Voilà, c'est le site des journaux de Gallica. Donc en fait, même si j'adore aller aux archives, finalement, j'y suis très peu allée.
T'es allée pour quoi, du coup ?
J'y suis allée pour des manuels scolaires, par exemple.
Ah !
Ou pour des journaux spécifiques que je trouvais pas en ligne. Et j'y suis allée aussi à Paris pour un ouvrage qui n'existait qu'à l'Institut de France ou sinon à Strasbourg en Guyane.
Ah oui.
Voilà, l'Institut de France, c'était bien. C'est justement l'ouvrage d'Arthur de Bois-Lille dont je parlais au début sur donc la première référence vraiment sur l'hiver 1709.
Est-ce que tu as eu des bonnes surprises pendant tes recherches ?
Alors j'ai quand même eu des documents pépites. Donc je pense en premier à une Gouertz. Donc une Gouertz, c'est une complainte bretonne. qui raconte comment le fils d'un jeune seigneur s'est noyé alors qu'il chassait le cygne. Le cygne tombe sur un lac gelé et lui passe à travers le lac.
On dirait un conte, dit comme ça.
Mais oui, c'est ça qui me plaît bien. Et donc, cette gouverne, elle est créée par les gens qui trouvent finalement le jeune homme mort pour pouvoir raconter à son père ce qui s'est passé. Et c'est incroyable, cette gouverne, elle s'est transmise oralement dans cette région en Bretagne. Et donc, il y a toujours aujourd'hui des personnes qui savent la chanter. Et donc ça, c'est le travail. Donc, en Bretagne, de Dastum, il y a une association qui collecte des traditions, des chansons, des récits. Et donc, il y a un chanteur voilà, qui a raconté comment sa maman, lui, chantait quand il était petit devant le feu en hiver, cette Gwerz. Et c'est vraiment des documents qui sont très émouvants. Pour ceux qui seraient intéressés pour éventuellement l'écouter, il faut rechercher la Gwerz Eine Trou de Kargezek.
On mettra le nom sur mon site, hein, vous inquiétez pas.
Et ensuite, vous pouvez consulter des informations, mais pour vraiment pouvoir l'écouter, il faut se créer un compte. Alors, c'est très facile, hein. Le Dastum accepte les comptes voilà, des personnes qui veulent écouter.
Et c'est gratuit ?
C'est gratuit, tout à fait. Il faut juste, en fait, faire la démarche.
Bon, je pourrais pas le mettre dans l'épisode parce que du coup, si c'est protégé derrière un compte, je vais pas pouvoir le mettre, mais c'est assez intéressant. Alors là, donc, tu as soutenu ton mémoire il y a quelques mois. Est-ce que tu aimerais continuer tes recherches sur l'hiver ou est-ce que tu es déjà passé à autre chose ?
Alors, il reste des mystères sur mon hiver.
Des mystères ? Ah ouais ?
Notamment sur les périodes où on en parle. Donc souvent, je peux les expliquer. Par exemple, quand il y a un hiver froid ou quand, par exemple, pendant la Première Guerre mondiale, on l'utilise souvent pour comparer les deux périodes en disant « Regardez, là aussi, c'était dur, il faut qu'on tienne le coup. » Mais dans les années 1930, il y a un retour de ce sujet-là et ça, je ne peux pas l'expliquer. Ça fait partie des petits mystères qui planent. Mais pour l'année prochaine, pour mon M2, je ne pourrai pas continuer sur ce sujet parce que je passe sur un master professionnel où je vais donc faire un travail en lien avec mon stage sur les questions de médiation. Et donc voilà, je vais laisser l'hiver 1709 et sa mémoire.
Mais est-ce que peut-être tu te dis « Oh, je peux faire des petites recherches comme ça » ou tu te dis « Non, je laisse à d'autres gens qui voudraient étudier ».
Je pense que je vais laisser la main pour pouvoir me concentrer sur ce qui m'attend. Il y a quand même beaucoup de travail, même si voilà, je garde tout ce qui touche à 1709 toujours un peu en coin de l'œil quand je visite des endroits ou quand je lis des choses.
Et idéalement, t'aimerais faire quoi comme métier ? Parce que donc, j'ai compris, la recherche, t'as pas envie de continuer, mais qu'est-ce que t'aimerais faire dans... Parce que la médiation, c'est large quand même.
C'est large. Moi, j'aimerais bien soit faire la médiation du patrimoine, soit dans le spectacle vivant. C'est aussi quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Et l'idéal, c'est la médiation du spectacle vivant dans un lieu de patrimoine. C'est ce que j'ai fait cet été dans le château du Plessis-Massé. C'était génial.
C'est où, ça ?
C'est tout près d'Angers. C'est là. D'accord. Où il y a le Festival d'Anjou.
Si ok,
si je t'en connais pas du tout. Un festival de théâtre.
Ah ok, oh, bah, trop cool. Alors, est-ce que tu aurais peut-être des conseils de lecture pour des gens qui voudraient en savoir plus ou juste lire des choses en lien avec l'hiver de 1709 ?
Eh bien, oui, j'ai des lectures assez sympathiques. Tout d'abord, il y a la bande dessinée Le Grand Hiver 1709 qui existe. Alors, c'est une fiction, mais ça permet vraiment de toucher plein de sujets de cet hiver. Également aussi le contexte, par exemple le contexte religieux avec les protestants, ça c'est très peu abordé et c'est assez intéressant. Il y a aussi des romans qui utilisent ce cadre un peu mystérieux voilà, pour créer des intrigues. Par exemple, il y a les chroniques bretonnes d'un gentilhomme breton, d'Alain Aymon, ou bien le sang-dieu de Virginie Caillé-Bastide.
Bon, je mettrai toutes les références sur le site, bien sûr, comme d'habitude, vous le savez, auditeurs, auditrices, sur le site, on vous mettra les références bibliographiques. Donc tu as dit, tu penses qu'il y a encore des choses à étudier sur l'hiver, est-ce que tu as peut-être d'autres conseils de sujets à étudier liés à ton sujet ?
Oui, alors déjà tout ce qui est des cas européens, il y a énormément de choses à faire. Par exemple, la plupart des images qu'on connaît et qui sont sur les sites, par exemple, si vous faites des recherches sur l'hiver 1709, elles nous viennent d'Italie, parce qu'il a fait très froid là-bas. Par exemple, il y a la lagune gelée à Venise, qui est souvent utilisée, qui est assez connue. Mais aussi, dans les sources françaises, souvent, ils se plaignent en disant « Ah, les autres, ils ont des bons traîneaux, donc... » Ou alors, ils sont mieux préparés. Donc, je pense qu'il y a des choses à faire, des comparaisons, ou peut-être étudier voilà, comment ont pu vivre d'autres pays qui ont subi cet hiver.
Désormais, chers auditeurs et auditrices, vous en savez beaucoup plus sur l'hiver 1709. Donc merci beaucoup Axel Gerin, c'était vraiment passionnant, merci pour ton enthousiasme malgré cette période froide. Tu m'as donné envie d'en savoir plus, j'aime beaucoup.
Merci Fanny.
Et d'ailleurs je rajoute aussi un conseil de lecture, alors c'était une exposition qui avait eu lieu à Paris il y a quelques années au pavillon de l'Arsenal. C'est un livre qui s'appelle Histoire naturelle de l'architecture et le sous-titre c'est Comment le climat, les épidémies et l'énergie ont façonné la ville et les bâtiments. C'était super intéressant, vraiment j'avais adoré l'exposition, alors On parlait de toutes les époques et tout, pas beaucoup. Mais on parlait quand même de l'époque moderne et du Moyen-Âge et aussi de l'époque contemporaine. Donc c'est un petit livre. Donc si ça vous dit aussi, je vous mettrai pareil la référence sur le site. Et donc profitez-en, quand vous êtes sur le site, vous pouvez voir donc, des images, mais on vous mettra aussi des références. Et alors si vous avez aimé cet épisode, je peux vous conseiller, alors déjà l'épisode que j'ai cité, l'épisode 34 sur les révoltes des femmes dans les campagnes lyonnaises, donc c'était l'épisode 34. J'ai aussi, alors on parlait d'épidémie, j'ai aussi l'épisode 12 avec Paul-Arthur Tortosa, on a parlé donc des épidémies au 18e siècle, alors vraiment il était paru en mars 2020. Et ben voilà, lui, il était plus concentré sur l'Italie à la fin du 18e siècle, mais il en a quand même parlé en général. Donc allez voir comment on gérait les épidémies et comment en fait l'Italie, avec la complexité politique, a géré des épidémies, comment des mesures étaient mises en place ou non. C'est assez intéressant. Et n'hésitez pas à aller voir tous les autres épisodes de Passion Moderniste, tout est sur mon site. Et vous pouvez aussi en profiter pour aller écouter mes autres podcasts. Alors c'est sur un autre flux de podcast, mais là où vous écoutez Passion Moderniste, vous retrouverez aussi Passion Médiéviste sur l'époque médiévale et Passion Antiquité sur l'Antiquité. Vous l'avez compris. Vous pouvez retrouver Passion Moderniste. Alors en vrai, j'ai de moins en moins de réseaux sociaux dédiés à Passion Moderniste parce que c'est un manque de temps. Mais j'en parle sur Instagram, sur le compte de Passion Médiéviste, mais je parle de mes autres podcasts dessus. Et un petit peu sur Facebook aussi, si vous voulez être tenu au courant des sorties des nouveaux épisodes. Et si jamais vous avez envie de soutenir mon travail, vous pouvez parler de podcast autour de vous, n'hésitez pas vraiment à partager les épisodes, à conseiller Passion Moderniste autour de vous, à vos amis, à vos collègues, sur internet, où vous voulez. Et aussi, si jamais c'est possible pour vous, sachez que vous pouvez soutenir financièrement mon travail à partir de quelques euros par mois, même vraiment, ou une fois comme ça ponctuellement, ça m'aide beaucoup. Donc je vous explique comment faire sur mon site, donc c'est passionmediaviste.fr/soutenir, très très simple, vous-même vous trouverez le lien sur la page d'accueil du site, allez voir tout ça. Et je remercie bien sûr les personnes qui le font déjà, c'est vraiment très 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 précieux. Et dans le prochain épisode de Passion Moderniste, on parlera d'un sujet assez différent. Quoique, peut-être, non, vraiment différent, on parlera de la cartographie. À bientôt!
Since we've no place to go, let it snow, let it snow, let it snow. Man, it doesn't show signs of stopping, and I brought me some corn for popping. The lights are turned way down low, let it snow, let it snow. When we finally kiss goodnight, how I'll hate going out in the storm. But if you really hold me tight, all the way home I'll be warm. And the fire is slowly dying, and my dear, we're still goodbye. But as long as you'd love me so, let it snow and snow.